Radio G 101.5 FM.
Radio G 101.5. Bonjour auditeurs, auditrices. La quatrième émission Assiette pour 3, émission des AMAP du Maine-et-Loire, qui réunissent autour de la même table, côté production, les paysans en AMAP, et côté consommation, les AMAPiens. On remet le couvert en compagnie aujourd'hui d'Alain et Alain. Bonjour Alain, bonjour Alain, ça va pas être très facile, on va y aller.
Bonjour Yvonique.
Bon alors, un Alain qui s'occupe de production de volaille, et Alain qui s'occupe de production laitière, notamment. Donc vous avez choisi... Oh pardon. Alors, on avait un petit jingle sympathique. Ah, ça y est, on l'a pris dans les oreilles.
Alors là, je rigole parce que c'est ce coq a une histoire, en fait. Il a rythmé la ferme tout l'été. Et puis, maintenant, il est rendu donc, chez un mapien, dans très basse cour. Donc, il coule des jours heureux, maintenant, avec des poules. Et ce coq, en fait, la transaction avec un mapien s'est faite devant Radio G. Et devinez comment il a appelé ce coq. Radio G.
Ah. Bon, il va pas faire des œufs, il va faire des petits quand même. Ok. Alors Alain.
Donc moi c'est donc Alain Guifès. Donc j'ai donc des vaches laitières, quelques-unes ont des cloches, voilà. C'est pour ça que ça rythme aussi notre quotidien. Voilà.
D'accord.
C'est pour le fun.
Bon, je pense que de toute façon, les jingles, on ne va pas les prendre à chaque fois parce que ça va faire ding-ding et quoi-quoi-rico, mais ça va être un peu... Mais bon, donc voilà. Vous avez choisi aujourd'hui un titre pour cette émission. Vous avez choisi un titre. Et ce titre, c'est « Ma révolution ». Alors, pourquoi ce titre ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce qui a généré cette révolution ? Qu'est-ce que vous viviez avant en tant que paysan ?
Alors donc, bah, actuellement, alors moi je suis en volaille, hein, en volaille bio sur Montillé, donc au sud de Maine-et-Loire.
Je n'ai pas été effectivement toujours en volaille bio. Et notamment, enfin, je suis aussi en AMAP. Donc, je produis une partie des volailles bio donc, pour 4 AMAP donc, du Maine-et-Loire. Donc, c'est à peu près 180 familles AMAPiennes donc, qui consomment de mes volailles.
Oui, mais avant, Alain, la question c'est un peu. Qu'est-ce que tu vivais avant de faire ta révolution ?
Voilà, comme, voilà comme, on va y revenir.
Voilà, c'est ça. C'est donc, ça la première question, en fait.
D'accord.
Ma révolution, ça implique
oui.
quoi ?
Oui. Alors, ma révolution... Alors, moi, j'ai fait mes études dans les années 70. Alors, rappelez-vous, à cette époque-là, donc, les lois de modernisation de l'agriculture depuis les années 60... Bon, avait permis à la France de devenir autonome au niveau alimentaire. Et puis, par contre, y avait surproduction à cette époque-là d'un petit peu de tout. Et les aides à la modernisation ont continué, puisque, rappelez-vous, Giscard d'Estaing avait parlé de l'agriculture française doit devenir le pétrole vert de la France. Donc,
d'accord.
C'était. Donc, en fait, il fallait exporter pour faire entrer des devises, quoi. Donc on a continué à aider l'agriculture très productiviste.
Et c'était déjà un choix politique, en fait.
C'était, d'accord.
Et toi, Alain,
c'est un peu la même lignée. C'était les années 80 aussi, formation agricole, donc toujours le même moule, hein, classique. Et après, c'est des rencontres. J'ai milité très jeune dans des organisations d'éducation populaire, notamment le MRJC, qui était l'héritier de la JAC. Et là, ça a été le grand déclic, ça a été le début de ma révolution ou de mon évolution personnelle. Quoi. Donc, rencontre de jeunes qui essaient de réfléchir les choses différemment, analyse du contexte, essayer de comprendre pourquoi ici on surproduisait et puis à l'autre bout de la planète on était malnutri.
Déjà une réflexion militante sur ce qu'est l'agriculture, etc., sur les productions.
Ouais, en parallèle de la formation, c'est vrai qu'on passait quelques sessions, des week-ends, des temps de réflexion. Et bon, ça a ouvert.
Et vous vous êtes retrouvé en difficulté de production ou de financière ou des choses comme ça qui
Oui, mais produire de la volaille industrielle, on est toujours sur la corde raide hein, au niveau sanitaire, c'est-à-dire au niveau technique. Sur la corde raide au niveau financier aussi, puisque c'est des sommes énormes hein, qui sont brassées. Quoi. On brasse beaucoup de pour un revenu qui ne suit pas quoi, à cette époque-là. Quoi. Il faut vraiment que la technicité soit toujours au top pour que le revenu suive. Quoi.
Voilà. Et toi, Alain, alors, t'as tes difficultés éventuelles
Moi, je me suis installé, donc on s'est installé avec Nathalie, mon épouse, en 96, sur la ferme des beaux-parents. Et on était associés avec eux. Et eux, ils faisaient du porc classique en industriel. Et donc, nous, on a ramené un petit troupeau laitier qu'on a progressivement agrandi. Et d'emblée, on s'était mis dans l'idée... on avait aussi cogité avec des collègues du CIVAM, agriculture durable Maine-et-Loire, qui venait de se créer aussi depuis quelques années.
Et donc, le CIVAM,
en fait, c'est un groupe de réflexion. Enfin, c'est des formations qui sont créées par les agriculteurs, gérées par les agriculteurs. Et c'est des groupes sur des thématiques. Alain et lui, plus en volaille. Nous, plus en production laitière, puis en production fromagère aussi depuis. Donc, c'est des groupes d'agriculteurs qui se retrouvent, qui posent une thématique, par exemple, sur la santé animale, sur...
mais tes difficultés qui ont fait que...
Et donc, du coup, nous, d'emblée, quand on s'est installé, on était en relation avec ce groupe d'agriculteurs. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'était d'être autonome et économe sur l'exploitation. Le plus possible. Quoi.
Ça, c'est le passage en bio.
La bio est arrivée en 2008, bien longtemps après. Quoi. Donc, d'emblée, nous, on s'était mis sur un système herbager. Quoi. Donc, on limitait un maximum les entrants. Très rapidement, on a arrêté de mettre des pesticides et des engrais. Mais parce qu'on avait aussi cette cohésion avec des groupes autour de nous qui nous y incitaient. Et puis, on sentait que c'était notre voie. Et puis, voilà, pour notre santé. Et puis, voilà. Quoi.
Et donc, ça veut dire qu'il y a des paysans qui sont quand même restés en conventionnel. Et c'est quoi la difficulté du conventionnel? Est-ce que c'est la distribution? Qu'est-ce que c'est les difficultés des paysans en conventionnel? Parce que le passage en bio, c'est autre chose, mais on y reviendra. Mais le conventionnel, c'est quoi la grosse difficulté? Parce qu'il y a quand même, je rappelle juste qu'il y a 300 suicides de paysans par an, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc ça veut dire quand même que c'est un travail difficile. Mmh.
Faut voir que tel qu'est organisée la consommation-production en France, avec la mainmise des grandes distributions, on s'aperçoit que... c'est une histoire de monopole. Hein, la monopole de la grande distribution fait qu'il y a une politique de prix bas qui s'impose. Quoi. Mmh. Et la réponse à cette agriculture, à cette politique de prix bas, c'est toujours produire plus hein, pour pouvoir maintenir son revenu. Quoi. La valeur ajoutée des fermes, elle part dans le circuit, elle part dans le circuit long. Quoi. Et on est toujours obligé, pour maintenir son revenu, en fait, de produire toujours plus. Quoi. C'était une logique. Et il y a des agriculteurs en conventionnel qui sont toujours dans cette logique.
Le premier impacté, c'est le paysan, de toute façon.
C'est celui qui est au bout de la chaîne et ce sera toujours lui qui sera impacté, effectivement.
Et paradoxalement, la collectivité publique continue de subventionner l'agriculture. Oui. Et il se trouve aujourd'hui que les systèmes qui sont les plus intensifs sont ceux qui sont les plus subventionnés, quoi. Donc, mais qui ont moins de valeur ajoutée, comme disait Alain. Donc du coup, quand on fait un peu l'analyse du revenu, on retirerait les aides publiques, il y aurait quasiment la moitié moins de revenus. Quoi. Donc effectivement, les prix sont bas à la consommation, mais d'un autre côté, on subventionne un peu à perte, quoi.
Et dans l'agriculture industrielle, l'agro-industrielle, on peut dire, par exemple, par rapport au cas de grippe aviaire ou d'épidémie, le fait que les exploitations en bio soient plus petites, peut-être que c'est... Parce qu'il y a un gros risque, dès qu'on est en industrie,
d'être...
sanitaire.
Oui, effectivement, les risques sanitaires qui ont eu lieu, à partir du moment où on industrialise, on concentre des animaux sur la même surface, etc., il y a des risques sanitaires qui explosent, quoi. Et les cas de la grippe aviaire, ils ont, par exemple, c'est un truc qui vient d'Asie, le virus, il a cheminé de l'Asie vers l'Europe. Au départ, ils pensaient que c'était les passereaux, les oiseaux qui transportaient. Mais c'est bizarre, ce virus suivait le chemin de fer. Alors, je ne savais pas que les oiseaux prenaient le chemin de fer. Ça veut dire que c'est là. c'est l'activité humaine en fait qui transporte tout ça. Donc la mondialisation des, de la production, le transfert des animaux, le transfert des produits, etc. Du monde entier, entre les pays du monde entier, ben, c'est l'activité humaine hein, qui crée ces crises. Quoi.
Et toi Alain, par rapport à la vache folle, par exemple, t'étais pas encore en... T'étais comment toi ?
Non, ça a commencé, mais la vache folle, c'était dans les années 86, ouais, vers là, 86-89. Bon, c'est vrai que ça a eu un sacré impact, et paradoxalement aussi, là encore, la consommation en produits bio a augmenté. Quoi. Dès qu'il y a une crise sanitaire, le consommateur est un peu en alerte, et du coup, il se retourne vers des produits plus tracés et plus sains. Quoi.
D'accord.
Donc, et moi, de notre façon de produire, on a toujours constaté ça. Quoi. Dès qu'il y avait un problème sanitaire quelque part, on sentait qu'il y avait une émulsion chez les consommateurs.
D'accord. Alors, donc, je vais revenir un petit peu aussi à une manifestation de la Confédération paysanne, le banquet paysan, là, qui s'est passé au mois d'avril. Moi, c'est le deuxième, mais au mois d'avril sur le parvis du quai à Angers. Et nous, les AMAP, on s'y tenait avec un stand d'information, et vous, tous les deux, vous étiez en tant que paysans et paysans amapiens. Alors, la devise, en fait, de cette manifestation, c'était « manger, c'est voter tous les jours ». Et je rapproche ça à le titre que vous aviez choisi de ma révolution. Donc, est-ce qu'on peut développer un peu ça ?« Manger, c'est voter tous les jours », parce que le choix, en fait, du consommateur... Donc, Alain, si tu veux.
Oui, moi personnellement, ma révolution, elle a été un peu initiée en militant à la Confédération paysanne au départ. Ce qui m'a permis d'appréhender ce qu'était l'agriculture paysanne. Mais c'est surtout vraiment la MAP a été un tsunami sur ma ferme. C'est-à-dire que ça m'a permis vraiment de comprendre que la relation paysan-consommateur était importante. Franchement, le partenariat était important. C'est lui qui a été le déclencheur. Quoi. Nourrir mes voisins à ma pierre a été le déclencheur.
Mm-hmm. Et toi, Alain, par rapport à cette devise, la marge,
oui, c'est pareil. Le mot tsunami est bien employé par rapport aux AMAP. C'est vrai que quand on a créé cette AMAP, nous, en 2005, c'était pour contrer, entre guillemets, l'ouverture d'un hard discount sur la commune qui avait titré dans la presse à son inauguration qu'ils allaient revitaliser les bouts ruraux. Et donc, nous, on avait trouvé ça un peu fort en chocolat avec les copains de la Confédération paysanne. Et on s'était dit, il faut pas qu'on y aille frontalement, mais il faut plutôt qu'on essaie de proposer des alternatives. Ce qu'on a fait en créant une conférence avec un économiste qui nous a un peu éclairé sur... la problématique des hard discount, des grandes surfaces, tout ça. Et donc c'est de là qu'est parti notre AMAP. Donc ça a été vraiment
Ça veut dire quand même qu'un consommateur, c'est un électeur. Un électeur...
complètement, oui.
Élus suivent les électeurs, quelque part.
Manger, c'est voter tous les jours, quoi. C'est clair. C'est clair que... C'est clair que, c'est un acte militant que de consommer, parce que derrière il y a toute une chaîne alimentaire qui fonctionne.
Oui, ça influence.
Par les AMAP, c'est vrai que le circuit est très court. On met un visage sur ce qu'on mange tous les jours, quoi.
Ouais.
Mais ça, c'est important, quoi.
Ouais, mettre un visage sur ce qu'on mange tous les jours, oui, c'est un peu la mise en accord entre les paroles et les actes, en fait. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale avec le groupe Lojo, qui est bien connu des Angevins. Et le titre, oh là, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. De toute façon, tout est fragile.
Ville défaite aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. L'espasme de la nuit émeuve quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux.
Giuro biedo, la mamma cal mangia di giuro biedo.
Des
Les filles d'après minuit à la peau comme des sucreries d'Orient ont fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Sa versant lunaire à mille instants de sucre, mille instants de sel.
Bon retour à la table. C'est toujours un peu dommage et même toujours très très dommage de couper un morceau comme ça. Mais bon, on le réécoutera après de toute façon. Donc Alain et Alain, vous étiez donc en production agroalimentaire de compétition, hein, c'est-à-dire voilà. Et là vous êtes reconverti en bio à une époque où c'était plus possible de toute façon et c'était éthiquement plus possible de faire comme ça. Et donc la reconversion en bio, ça a été facile ou pas? Ça a été compliqué qu'est-ce que ça impacte dans les façons différentes de produire en fait?
Alors avant, en volaille industrielle, j'avais un potentiel de faire à peu près 240 000 poulets à l'année, donc tout seul. Donc, mais bon, évidemment, du poulet un petit peu de bas de gamme, hein, parce que c'est du poulet, pour qu'il fasse 2 kilos à 38-40 jours. Quoi. Il y a un peu la rapidité. Donc sur 2 000 m2 de bâtiment volaille, ça faisait 240 000 poulets à l'année. Quoi.
Donc en bio, ouais, déjà, tu parles du temps. Quoi.
Voilà, donc non, ça c'était en conventionnel, ça.
Oui.
C'était, voilà. Donc avec tous les risques que je disais tout à l'heure, sanitaires, financiers, etc., derrière. Quoi. Et puis petit à petit, ben, mon revenu s'est grignoté et la réponse de la coopérative, ah oui, mais 2000 m2 pour un UTH, pour vous tout seul, c'est pas suffisant. Il faudrait passer au moins à 3000 pour assurer son revenu. Ça veut dire que mon revenu avait été grignoté par les prix bas, etc. Et puis, fallait que je produise encore plus pour espérer maintenir mon revenu. Quoi.
C'est un peu la fuite en avant.
Ah bah, effectivement, moi, je me trouvais face à un mur. Et c'est vrai que la MAP est arrivée à ce moment-là, m'a donné des réponses. Quoi. Donc, j'ai commencé à produire des volailles pour la MAP, donc des volailles de qualité, des volailles de 100-120 jours. Mais à côté de volailles industrielles, puisque que je pouvais pas financièrement, je pouvais pas changer quelque chose à mon système. Les capitaux sont bon, il faut
avaler les crédits.
Voilà, donc c'est très long à rembourser. Donc j'avais des emprunts jusqu'en 2010. Donc mais par contre, aux Olympiens, j'ai promis, voilà, je ferai quelque chose. D'accord. Et donc je l'ai fait en 2010.
D'accord. Et donc toi, Alain, comment c'était
Bah nous, on avait tous ces ports industriels. Et les bâtiments étaient un peu obsolètes. Ils arrivaient à bout. Et c'est vrai que la production porcine aujourd'hui, c'est un perpétuel investissement. Mais ce qui est perpétuel aussi, c'est les cours cycliques haut et bas, quoi. C'est-à-dire que des fois, ça monte et puis ça rechute, quoi. Et c'est devenu une habitude dans le milieu. Bon, les producteurs, ils font en fonction de ça. Et nous, c'était pas notre trip du tout, quoi. Donc, à un moment donné, c'était soit on investissait pour rénover les bâtiments, soit on en ressortait, quoi. Et on en est ressorti. Il était plus que temps qu'on en ressorte. Mais on avait toujours l'élevage laitier à côté. En système herbagé et qui prenait le développement.
En
autonomie, l'idée de faire la transfo, ça avait toujours été un peu dans notre trip avec Nathalie, d'avoir une relation avec les consommateurs, c'était ça. Et donc les AMAP.
Il y a des aides pour sortir du conventionnel,
ouais,
vers le bio.
Il y a des aides publiques, hein, qui sont liées aux terres. Pendant la période de conversion, et puis il y a des aides au maintien après qui sont aussi liées au titre.
Donc c'est possible pour un jeune paysan à la limite de
voilà. Et après il y a des coopératives ou des groupements de producteurs qui aident aussi pendant la conversion. Nous on livre notre lait à un groupement de producteurs qui s'appelle Biolay, qui s'occupe de la revente de notre lait, et ce groupement là, aide aussi les producteurs pendant la période de conversion.
D'accord. Et le fait d'être passé en bio, je suppose que ça change un petit peu la physionomie des fermes. Les terres sont un peu moins labourées, les herbes poussent un peu plus fort, et le voisinage est resté en conventionnel. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti des choses, des regards de vos voisins, en fait, des paysans, de vos voisins. Il a dû y avoir. Ça ne doit pas être si facile que ça.
C'est vrai que actuellement, je produis 10 fois moins de volailles qu'avant, quoi. Et mon revenu est nettement meilleur, quoi, donc je ne vais pas m'en plaindre. Au niveau technique, au départ, c'est ce qui m'embêtait, c'était de produire sans herbicide sur les cultures. J'avais peur de voir une flopée d'adventices, de mauvaises herbes pousser dans les champs. Puis finalement, avec un peu d'agronomie, on y arrive, hein, les rotations, etc.
Donc tu as laissé tomber la pompe
Ah bah, oui, bah, oui. Ah bah, du jour au lendemain, oui.
De toute façon, c'est interdit.
C'est interdit, de toute façon, on est... Et puis, alors c'est vrai qu'on est un peu isolé hein, au niveau par rapport à l'ambiance agricole, les collègues de Cuma, etc. On est assez isolé. Hein. Je suis tout seul sur Montillet, à être en bio. Et ils savent regarder. C'est vrai qu'en agriculture, on regarde entre nous par-dessus la haie.
Hein. Oui. Ça, vous avez du mal à cacher. Alors, quand voilà. même.
Donc il faut. Bon... Mais c'est intéressant, c'est travailler en agriculture biologique, c'est aussi intéressant que de savoir manier un appareil à traiter. Hein, c'est nettement c'est valorisant.
Oui, c'est pas une chose si simple que ça. C'est un peu, ouais. Puis ça doit être assez, c'est un peu du bonheur quand même de voir, de faire des choses saines comme ça.
Complètement, oui.
Oui, et puis bon, le contexte du moment, il va un peu dans notre sens quand même, quoi, parce que. Le conventionnel dans les productions qu'on a aujourd'hui, enfin peut-être moins en volaille, mais en production laitière, ça pose beaucoup de questions aux voisins quand même. Quoi. Ils ont un métier qu'ils aiment, mais ils l'aiment de moins en moins parce qu'il est de moins en moins rémunérateur. Quoi.
Ouais.
Donc, parce qu'être en bio, bon, c'est sûr qu'il y a tout le process bio, mais moi ce qui me plaît aussi, c'est d'aller aussi plus loin que la production, c'est d'être acteur aussi de la vente de ce qu'on fait et de par les AMAP, parce que nous on transforme sur la ferme, on transforme la moitié de notre production laitière, on la transforme, et l'autre moitié on la vend à Biolay. Mais à Biolay on est acteur, quoi. On est acteur de ce qu'on fait, et on voilà. Et ce qui manque aujourd'hui à la production classique industrielle, c'est que les gens ne sont plus acteurs de.
Ben c'est ça, ouais, d'accord. Et bien, depuis le temps que ça dure chez vous, là, je vais vous poser une question imbécile parce que il faut quand même arrêter cette chose-là. Donc, produire autrement, bio, etc., pour deux paysans, pour les paysans, c'est possible, c'est durable, on peut en vivre, on peut avoir un revenu et c'est possible.
Ah oui, oui, bah, oui, parfaitement, oui. Bah, au contraire, moi, je viens de dire tout à l'heure que mon revenu s'était amélioré. En fait, je brasse beaucoup moins d'argent qu'avant, mais au moins, il en reste plus. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, elle se la ferme. Et surtout pour la position de la MAP où je suis en vente directe et en agriculture durable. C'est-à-dire que j'applique les principes de l'agriculture durable, donc très, très autonome. C'est-à-dire que j'achète les poussins, je les nourris, elles servent de la ferme et je les abats sur la ferme. Donc il n'y a aucune fuite de valeur ajoutée. Je la conserve complètement. Quoi.
Ouais, donc il y a quand même toujours ce mot d'autonomie. Alain, c'est quand même un leitmotiv chez vous. L'autonomie, c'est très, très important parce que c'est le choix en fait, de la pérennisation de l'exploitation. Faut que ça peut durer parce qu'il y a un salaire, il y a un confort quand même.
C'est la recherche de valeur ajoutée. Ouais.
Et donc là, on est maintenant avec les AMAP. Alors vous avez opté pour les AMAP ou c'est les AMAP qui ont opté pour vous ? Comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez découvert ? Je pense que, si moi je me souviens bien, c'est plutôt vous qui êtes venu vers nous. Mais ça peut se passer dans l'autre sens.
Donc, je l'avais un peu décrit tout à l'heure.
Quand on a commencé à parler, à démonter un petit peu la mainmise de la grande distribution et puis de la consommation en France, on parlait des publics, et ben on était surpris de voir des citoyens consommateurs qui étaient là à la salle, quoi, et puis qui prenaient part. Hein, ils nous ont dit, bah oui, vous, la conférence paysanne, vous dénoncez, mais qu'est-ce que vous proposez maintenant ? Là, c'est là qu'on est reparti chez nous, et puis on a eu l'opportunité, on a entendu parler d'AMAP. Qu'est-ce que c'est qu'une AMAP et comment ça marche, etc. Et on a ramené cette solution donc, aux citoyens, à Mapien.
Et donc, c'est des paysans qui ont proposé après
Nous, Aviez, oui.
En disant, nous, on est prêts à y aller, quoi, à changer notre façon de faire.
Vous avez proposé des choses à des gens pour des paniers ou des choses comme ça.
Voilà, on a trouvé un maraîcher très, très rapidement qui était disponible, qui avait accroché aussi à l'idée. Nous, c'était en 2005, nous en 2007, on a mis 2 ans avant de mettre la fromagerie en route. Et donc, Alain, c'est pareil. Je ne sais pas en quelle année toi tu as.
Dès 2005, parce que dès l'automne.
Avec quelques volailles. Ouais.
Malgré que je faisais de la volaille, il y a les volailles industrielles. Donc à côté, j'avais démarré donc des volailles pour la MAP, quoi. Donc ça a quand même été un sacré challenge pour les Amapiens de me faire confiance. Parce que
c'est ça.
Il y a une confiance qui existe en AMAP.
Oui, il y a une confiance, il y a un contrat. Alors moi en tant qu'AMAPien, je sais que le contrat c'est une exigence de, une exigence de respect des engagements. Mais c'est aussi fonctionner en confiance. Ça crée un lien et c'est un vrai lien parce que un lien consommateur AMAPien et un lien paysan, c'est vraiment un vrai lien. C'est quelque chose de. Et c'est vrai que la confiance, c'est vraiment très très important.
Moi, je voulais dire un point parce que tout à l'heure tu nous as interpellé sur est-ce que c'est reproductible, parce que ça peut s'élargir à plus de monde. Et moi, je dis oui, quoi. Nous, c'est le but, c'est de montrer, même si on est encore minoritaire, Mais aujourd'hui, la bio elle commence à sortir de la niche, quoi, et ça va devenir quelque chose de plus en plus.
Tu veux dire que c'est une agriculture qui a valeur d'exemple quand même.
Valeur d'exemple, mais qui demain va se reproduire. Et nous, on est tout à fait prêts, même sur nos fermes. On ouvre beaucoup les fermes, on les fait beaucoup visiter, pour que des gens viennent voir et fassent la même chose que nous, ou reproduisent des choses chez eux. Quoi. Ça, oui, c'est, oui. On est tout à fait ouvert à ça. Quoi.
Ah oui, c'est très intéressant. Un petit jingle de un petit poulet.
Le cri de Radio G.
Oui, en direct. Radio G. Donc il s'appelle Radio G. Celui-là. Oui, très bien. D'ailleurs, il a une très belle voix. Donc on n'a pas fait tout à fait le tour de la map, mais je pense que ce serait assez long. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez rappeler à peu près combien qu'il y a d'AMAP dans le Maine-et-Loire, ça représente
38 à 40, et là il va s'en créer l'autre, là, au 15 novembre, ben, je dois aller avec une autre consommatrice parler d'AMAP justement dans une commune, il y a des citoyens qui veulent se rassembler et qui veulent créer une AMAP, ça se crée encore quoi.
Oui, oui. À
Blaison-Goyer, oui.
Blaison-Goyer. Et puis il y a quand même ce concept aussi d'essaimage. Alain, t'en as fait pas mal.
Moi aussi.
Les deux, Alain. Mais je dis Alain, oui. C'est les deux. Hein.
Toutes les AMAP de Maine-et-Loire sont parties d'essaimage d'anciennes AMAP, de paysans en AMAP et de consommateurs en AMAP. On est toujours en binôme. Et c'est nous les mieux placés en fait, pour parler d'AMAP. Donc ça se transmet comme ça.
Et en fait, ça veut dire aussi que les AMAP, il y a quand même une question de proximité. On ne peut pas étendre des AMAP qui iraient servir des AMAPiens, du moins des producteurs qui iraient servir des AMAPiens à 250 ou 300 km, ça n'a aucun... le lien, il n'y a que la proximité.
Il faut que ça reste vivable pour les producteurs. Quoi.
Oui. Donc il faut que ce soit un maillage des campagnes avec le système AMAP.
Oui, c'est en plus la confiance aussi passe par l'ouverture de nos fermes. Donc, si on est trop loin, les Olympiens ne viendront pas visiter nos fermes. Parce que là, dès qu'on se rapproche.
C'est ça. Puis il y a le fait d'être là aux livraisons, il y a plein de choses comme ça.
Et puis la partie commerciale est réduite au minimum. Donc, si on est loin, il y a les frais de transport, il y a tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses. Derrière la map, on a quand même des idées écologiques qu'on applique.
Oui, de toute façon, l'émission s'appelle Ma Révolution et c'est quand même un engagement, Ma Révolution. Cher Alain, c'est quand même un engagement.
Ouais.
Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. On arrive presque à la fin de l'émission. Il reste que quelques. Si vous avez quelques réflexions à faire rapides, et après, je présenterai moi la.
Oui, je voudrais simplement dire que j'ai une question que je voudrais te poser, parce que nous, on a fait une révolution sur nos fermes, mais toi, Yvonique, en tant que consommateur, tu étais où pendant ces décennies?
Je faisais mes courses sans doute un peu n'importe où, mais peut-être pas tout à fait n'importe où, mais un peu n'importe où, c'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant que je suis en AMAP, ça fait 8 ans qu'on est en AMAP avec vous d'ailleurs et d'autres producteurs, j'arrive plus à aller dans les grands magasins. Et dès que ça se termine un peu, les livraisons, pour X raisons, férié, etc., ça va plus.
Donc la révolution est des deux côtés.
Ma révolution, elle est complète parce qu'en plus, ça fait tout un maillage de gens sur Saint-James-sur-Loire, donc qui ne se connaissaient pas, qui se connaissent maintenant par ce lien-là avec vous. Je veux dire, c'est quand même assez fantastique. Les premiers retours au mois de septembre, quand tout le monde revient de vacances, d'abord, on a du mal à fermer les portes. Heureusement que vous vous en allez parce que vous avez d'autres livraisons. Autrement, ce serait jusqu'à 10h, 11h le soir. Mais
c'est vrai qu'on devient accro à aller sur le lieu de distribution, le jour de distribution de la map.
Cette histoire de confiance. Quand tu manges du légume que tu n'es pas forcément obligé d'éplucher parce que tu sais que de toute façon, tu l'épluches parce qu'il y a de la terre ou il y a des choses comme ça, ça change énormément de choses. De manger des pommes, tu croques dedans sans enlever la peau, des tas de choses comme ça. Ça change énormément. Donc ma révolution, vous m'avez forcé, je l'ai fait. Voilà, donc on arrive...
Un point, je voudrais dire quand même aux gens qui nous écoutent, s'ils sont... Soyez aussi autonomes que nous quoi, dans vos choix de consommation. C'est-à-dire que pensez bien à ce qu'il y a derrière. C'est important.
Oui, parce que c'est vrai que Oui, c'est bien ressorti, je pense, de vos témoignages que le manger, c'est voter, mais c'est vrai, c'est choisir, en fait. Et le choix, c'est... On l'a tous, en fait, le choix.
On peut le faire, oui.
On peut le faire. Ouais. Voilà. Bon, alors, je vais terminer cette émission, là. Et nous arrivons donc à la fin. Et la prochaine d'Assiette pour 3, ce sera le lundi 21 novembre à 13h sur cette même antenne. On y parlera des champs et du blé qu'on y cultive et de la pâte qu'on y pétrit pour faire le pain. Ça se passera bien sûr en compagnie d'un paysan boulanger, d'un amapien et d'un animateur amapien lui aussi. Bon, vous pouvez réécouter cette émission sur le site Radio G101.5 et même les télécharger sur le même site. Par ailleurs, vous trouverez tous les renseignements concernant les AMAP du Maine-et-Loire sur le site d'Interamap, amap49.org. Merci Alain. Merci à vous, tous les éditeurs, les auditeurs. Et à bientôt au 21 novembre. Voilà, merci.
Radio G.